Voilà, donc je suis à l'Astrolabe actuellement avec Mathieu Dufaux, Julie Delannoy, Fred Robe. Voilà, pour parler bien sûr de la prochaine édition du Festival au Pop-Up, c'est dans 4 jours, 5 jours à peu près. La tension monte, est à son comble, pas encore.
Bah, disons que oui, enfin, c'est dans une semaine, hein, pile poil, parce qu'on est vendredi et c'est le vendredi suivant. On est à fond, on est prêt, quoi. C'est-à-dire que là, il y a déjà des équipes qui sont parties charger des camions, en termes de production tout à peu près calé. Enfin bon, voilà, on commence dès lundi sur tout ce qui est montage. Voilà, donc ça fait une rentrée un peu dense parce que à peine rentrée de vacances, bah, faut attaquer le festival. Mais bon, voilà, ça nous met dans le bain direct, donc plutôt bien.
Ouais, c'est l'effervescence un peu dans les bureaux. Hein.
Ouais, c'est l'effervescence, c'est l'excitation aussi et l'émulation. Parce qu'une fois qu'on commence par un gros dossier, mais par contre, on est en tout cas excité par ce dossier-là et hâte d'y être et de le vivre en tout cas, parce qu'on le prépare depuis des mois. On le vit depuis des mois et c'est quand même un truc excitant à mettre en place, à mettre en œuvre et puis à vivre le temps de 2 jours. C'est un peu frustrant, mais c'est 2 jours quand même.
Ben oui, on est complètement dedans. Sur la question en plus des amateurs, nous, il y a déjà des choses qui commencent demain, donc le festival est bien, bien enclenché. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui change pour les spectateurs, pour les organisateurs, pour les bénévoles cette année, cette 4e édition ?
Il y a des lieux supplémentaires, puisqu'on y associe la ruche en scène, où Radio Campus et les radios de la Ferraroc pourront à la fois faire des interviews en direct et accueillir des showcases de groupes qui sont programmés dans le festival. Il y a le Musée des Beaux-Arts, qui est nouvellement venu dans le festival, puisqu'ils vont accueillir les haïkus numériques 2 heures l'année, et Simon est allé, et puis il y a une expo qui sera présente au Centre chorégraphique national d'Orléans, et puis une nouvelle création.
Oui, une nouvelle création participative, parce qu'on était parti sur un cycle de 3 ans avec le projet We Can Be Heroes, et là on repart avec un nouveau projet avec... qui s'appelle Redline Crossers, qui consiste en une déambulation dans la ville avec justement des amateurs qui vont travailler sur le projet et qui seront complices pendant l'événement.
Voilà, donc il y a un brass band qui va déambuler et 4 danseurs qui vont orchestrer une chorégraphie avec des amateurs. Donc sous forme d'atelier, on peut participer.
Oui, on peut encore participer là aujourd'hui et après, voilà, ce sera déjà lancé. Les ateliers commencent ce week-end, ils se terminent mardi 10 et ce sera des complices dans la foule pour inciter les gens à danser.
Donc tout ça, bien sûr, aux couleurs de la Nouvelle-Orléans, justement, ce qui me permet de rebondir sur aussi l'inauguration d'une music box et un lieu qu'on avait découvert à la Nouvelle-Orléans l'année dernière. Et en fait, on a fait fabriquer ce qu'on appelle une music box là-bas, qui est arrivée en France et qui sera inaugurée pendant le festival au Pop-Up et qui sera visible depuis le jardin de l'évêché. Donc il y a également, on en profite pour inviter des gens de ce music box village de la Nouvelle-Orléans. Donc il y a à la fois les porteurs du projet à la Nouvelle-Orléans qui seront là, et puis ce sera, je dirais, illustré d'une manière sonore par la venue de Azizol, qui est... justement un artiste là-bas qui fait une sorte de hip-hop un peu surprenant, on va dire.
Alors la music box, c'est un genre de cabane sonore permet justement la création d'un spectacle. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est de la musique qui est diffusée en permanence en fait sur le festival ?
Ça peut être tout en fait, c'est-à-dire que c'est à la fois, il faut la considérer presque comme un instrument et comme un élément de diffusion. C'est-à-dire qu'un instrument, parce qu'effectivement, on peut sampler, on peut utiliser des sons, puis y injecter des sons. On peut proposer à des artistes de s'accaparer cet instrument et de produire de la musique avec. Mais on peut également s'en servir pour diffuser de la musique, et puis la positionner comme ça, faire de l'action culturelle aussi, de la médiation, proposant à des gens de l'utiliser, de développer des choses avec elle. Elle ressemble, ça ressemble à une sorte de cabine téléphonique, on va dire, avec effectivement des métaphones, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des systèmes de diffusion qui tournent au-dessus. Enfin bon, c'est, faut vraiment venir la découvrir, quoi, parce que ce sera, je pense, enfin, c'est le point de départ de peut-être d'un projet un peu plus global qu'on souhaiterait porter. Mais voilà, on profite de l'occasion pour la présenter à ce moment-là, quoi.
Donc ce sera au Jardin de l'Évêché pendant toute la durée du festival.
Voilà. Oui, il y aura des temps de médiation pour le public qui seront accessibles tout au long des 2 jours sur cette music box.
Quels sont vos coups de cœur, vous, dans la programmation ?
Il y a plein de choses. Il y a Squid, le groupe anglais de Bristol, qu'on a découvert à Brighton cette année, que moi je trouve assez surprenant. Alors il y a pas mal de groupes comme ça qui ont ce genre de son, surtout les groupes anglais, là, comme Black Midi. Je trouve que ça renouvelle un peu le genre, c'est surprenant, c'est des très bons musiciens, ils sont à la fois sur des univers... Là, je venais d'écouter une reprise de Robert Wyatt où ils vont vraiment, ils ont 25 ballets, ils s'attaquent à des répertoires assez différents. Donc Squid, groupe de rock qui va jouer à la scène nationale. Niklas Pashberg, que j'aime beaucoup pour l'avoir vu. Hein. Si vous écoutez Nils Fram, tout son label, c'est cet univers-là. Un mélange aussi, ça me fait penser aussi à Mario Batkovic qu'on avait entendu l'année dernière, puisqu'il y a un accordéon dans ses compositions. C'est vraiment piano droit, piano classique, piano analogique et un accordéon, il se sample et il fait de la musique là-dessus, une petite électro avec un petit pied derrière, c'est assez contemplatif, c'est assez entraînant et ça va être dans la salle du conservatoire et c'est plutôt beau, c'est vraiment beau. Catastrophe, moi, qui m'a surpris en concert, qui sont des musiciens déjà très doués, qui incarnent leur personnage, leur répertoire, c'est presque des comédiens, puisqu'ils vont, ils vont vraiment aller chercher les gens dans la foule, ils vont aller les provoquer. C'est une pop, mais il se passe, c'est un espèce de récit, voilà, c'est incarné, c'est plus qu'un déroulement de morceaux au fil du temps. J'ai vu ça dans un petit château à Bourges, j'y allais en ayant entendu parler du groupe, je savais que c'était le label Tricatel qui était derrière, donc curieux, mais j'avais qu'une idée, voilà, et ça m'a vraiment scotché en concert, c'est le concert qui parle pour eux. Et puis il y a plein d'autres choses, mais après je vais laisser mes collègues en parler également.
Moi, je rejoins Mathieu sur Niklas Pashberg, où j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur sur ce qu'il fait. J'ai pas eu la chance encore de le voir en concert, mais j'ai hâte. Il y a Big Joanie, un trio de Black Punk Power, de trois filles qui ont l'air de déménager sur scène. Et un groupe qui a l'air un peu foutraque et super rigolo à voir en live, groupe d'électro, Wes Stéphane, qui est seul sur scène, c'est ça ? Et qui jouera à la scène nationale aussi, et qui a l'air vraiment de provoquer beaucoup de surprises sur scène.
Moi, en fait, je dirais aussi qu'il y a une part belle qui est donnée à des groupes régionaux de la région. On a Stuff Foxes, on a Namdos qui collabore avec Brains, on a Le Comptoir qui se produira également, on a Irène Dresel qui pousse, qui est de près de Chartres également, Grande également qui sera présent, donc pas mal de groupes justement de la région et d'Orléans également qui seront proposé au public pendant un pop-up. Après, voilà, moi je suis plutôt assez séduit. Bon, certains groupes dont Mathieu et Julie ont parlé, comme Squid, Big Joanie, etc., qui sont des choses qu'on a vues justement à Brighton et qu'on a trouvé plutôt assez clash. Je pense à Jonathan Bray également, qui est plutôt sur une pop un peu mélancolique, un peu lente, et puis qui est plutôt assez exceptionnel, je dirais, enfin, qu'on espère exceptionnel sur scène. Moi, il y a un groupe également belge qui s'appelle Glock, également, que j'ai trouvé plutôt... j'attends un petit peu de voir, effectivement, lors de Hop Hop Hop. On est content de retrouver Altingen. Hier, ce sera quand même en finale sur l'évêché. Robotini le samedi, qui risque d'être vraiment classique aussi. Donc voilà, donc globalement, il y en a un peu pour tous les goûts, toujours dans cette idée à la fois d'avoir quelques artistes effectivement qui sont entre guillemets des noms et qui peuvent permettre au public d'avoir une sorte de point d'ancrage, on va dire, et puis à côté de ça une multitude d'artistes qu'on a pu découvrir nous à droite à gauche, qu'on a pu écouter et puis qu'on a envie de proposer toujours un petit peu dans cet ADN du festival qui est de découvrir les artistes de demain ou de découvrir même des projets un petit peu particuliers qui sont pas forcément facilement montrables, si tout est facilement montrable, mais qui ne retrouveraient pas forcément leur public si on les faisait en salle. Donc faire un festival, ça permet de tout d'un coup de leur donner une possibilité de visibilité un peu plus poussée, et puis de permettre au public aussi d'aller vers des esthétiques ou vers des gens ou vers des propositions où ils n'iraient pas forcément aisément, quoi. Donc ça participe un peu comme ça à faire évoluer peut-être les goûts du public ou l'envie d'aller d'être curieux, quoi.
Alors il y a Gisson qui a rendu son enquête sur la fréquentation des salles musique actuelle. On voit que dans cette enquête, On voit que le public qui fréquente la salle de spectacle, le profil type, c'est l'homme de 30 ans. Ça, c'est pour les festivals, 35 ans pour les salles de musique actuelles. Comment séduire peut-être les plus jeunes aujourd'hui encore ?
Bah, faut leur mettre du hip-hop. Enfin, ce qu'ils écoutent, les jeunes, c'est du hip-hop. Hein. Donc à partir de là, si tu veux... Enfin, nous, on le voit, hein, quand tu fais des Giorgio, quand tu fais des artistes comme ça, qu'ils ont des Columbine ou des choses comme ça, des Romo Elvis, des Angèle, tu blindes ta salle, quoi. Donc... il faut pas après rien n'empêche effectivement d'essayer de les amener vers autre chose quoi mais il y a effectivement enfin par catégorie de public tu sais que l'homme de 35 ans écoutera peut-être plus facilement de la pop ou du rock and roll et que le jeune s'il écoutera forcément du hip hop quoi même si ce n'est pas forcément mais voilà c'est des grandes tendances quoi donc
du hip hop à la rentrée
du hip hop à la rentrée ben il y a quelqu'un qui a collaboré.
Mal,
comment ?
Il y en a pas mal dans la programmation de Pop-Up.
Bah, des jeunes à la rentrée d'Astrolabe, c'est ça la question.
Il y aura Maxence, mais qui est plus proche de la pop aujourd'hui que du hip-hop, même s'il a collaboré avec VSO sur des morceaux hip-hop, c'est comme ça qu'il est venu à la musique. Mais sinon, il y a Tracy de ça qui vient, il y a Kobo qui est parrainé par Damso, qui est un artiste belge qui viendra. Il y a le comptoir, il y a le comptoir, tout ça à pop-up. Non, il y aura du plus de hip-hop entre janvier et mars 2020. Voilà, là c'est vrai qu'il n'y a pas de hip-hop à la rentrée, si ce n'est la soirée proposée par Ruf, parce que Ruf, qui est un artiste, un militant, a créé une association pour promouvoir son label et ses artistes. Et puis il y a également un spectacle jeune public. Que Julie va présenter.
Oui, alors pour qu'il y ait des jeunes à l'Astrolabe, il y a plein de choses. Il y a la programmation, effectivement, il faut être au fait des dernières tendances, parce qu'ils sont ils sont tout le temps avides de nouveautés. Et c'est ce que je pense qu'on essaye tous de faire au sein de l'Astrolabe. Et il y a aussi des projets qu'on monte un peu plus particulièrement pour travailler sur cette question-là avec la jeunesse. Donc on a une programmation jeune public là sur ce trimestre-là, donc on a des tout-petits, avec un projet qui aura lieu en novembre au TGP, qui s'appelle Comaneco. Mais pour revenir au hip-hop, on a un projet qui s'appelle La Relève, qui est à partir de 8 ans, sur ses 8-14 ans, un vrai concert de rap, mais pour les plus jeunes, qui en fait aura lieu à la suite d'un workshop hip-hop, qui consiste en fait pendant 3 jours à s'immerger dans un processus de création, avec des artistes professionnels. L'idée, c'est vraiment d'échanger et de travailler l'appréhension de la scène et d'être sur la première partie de ce projet-là. Donc on travaille à la fois l'aspect découverte de la musique et la pratique du concert avec les plus jeunes aussi.
Donc ça, c'est pendant les vacances ?
Ouais, c'est la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, du 28 au 30 octobre. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant pour participer à l'atelier.
Alors on va revenir à Hop Hop Hop, cette Intra-City Music Party. En effet, un festival qui est très ancré dans la ville et dans un périmètre très restreint, en effet. Alors est-ce qu'on pourrait penser un jour à un Extra-City Festival ? Orléans, c'est une métropole, il y a des lieux qui existent bien ailleurs que dans le centre-ville, et il y a peut-être des rendez-vous à créer avec d'autres publics. Alors, comment on pourrait imaginer un hop-hop-hop dans les quartiers d'Orléans ?
En fait, travailler avec les quartiers, c'est, y a aucun problème là-dessus. C'est que le cœur du festival, au départ, reposait sur les festivals qu'on avait pu rencontrer, des festivals de centre-ville, des festivals urbains, pas des festivals avec des grands des hippodromes, etc., qui existent, hein, qui se créent, qui ont lieu d'être. Donc l'idée même du festival, c'était vraiment au cœur du centre-ville, dans un périmètre de proximité, en associant des lieux culturels et en invitant des gens du public, et qui soient du centre-ville et des quartiers, à découvrir des lieux. En fait, c'est un peu l'idée. Ce qui fonctionne un petit peu. Alors, bien évidemment, il y a une marge de manœuvre pour attirer plein de publics différents. Donc après, l'ouvrir, il faut qu'il y ait... l'ouvrir, ça veut dire que... Moi, je pense à l'exemple au Transmusical, qui ont mis du temps à faire ça, mais qui ont ouvert dans des quartiers, effectivement, où ils ont pu... À un moment, ils ont associé l'Antipode, où il y avait des choses qui se passaient en Antipode. Là, ils font des créations entre le Parc des Expos et le centre-ville. Ça se fait en plusieurs temps, si jamais on doit le faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une identité au sein de la ville avant de... Et on a commencé par le centre-ville, avant de s'ouvrir à d'autres univers, à d'autres pratiques, quoi.
Je pense que ça peut pas se faire de manière un peu hors sol. C'est-à-dire que si effectivement on doit aller... je pense que si effectivement on doit élargir quelque chose ou proposer quelque chose qui pourrait pour le coup être s'étaler dans la métropole, ça serait potentiellement un autre projet, quoi. C'est-à-dire que Hop, il y a quand même une logique et une intention qui est d'être vraiment dans l'hypercentre d'Orléans et puis tout d'un coup de créer quelque chose qui est fulgurant en termes d'énergie, quoi. Enfin, quand tu le vis en tant que public ou même en tant qu'organisateur, tu as cette fulgurance qui est extrêmement excitante pour le coup. Maintenant, effectivement, si on devait installer peut-être un autre projet, ça veut dire que derrière, c'est intéressant d'interroger justement tout ce qui est lié à la politique de la ville, tout ce qui est lié à la politique de quartier, sur le fait comment on y associe des populations et des habitants du quartier. Il y a des choses qu'on regarde, nous, un petit peu avec intérêt. C'est-à-dire, je pense par exemple à tout ce qui est aménagement du quartier des Grous, avec le travail de Patrick Bouchain, qui arrive là pour le coup avec leur petite maison rouge, qui ont envie de déployer des choses sur ce quartier. Nous, il y a quelque chose pour le coup qu'on trouve extrêmement intéressant et sur lequel effectivement on va aller aux réunions, voir comment ça peut se passer, etc. Et puis, il y a d'autres quartiers comme La Source, pour le coup, qui sont un peu plus éloignés, ou l'Argonne, où des réflexions pourraient également exister. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça ne peut pas se faire sans les habitants, sans moyens, sans une vraie intention politique en termes de politique de la ville. Et puis, la troisième chose, c'est peut-être pas que avec l'Astrolabe, quoi. C'est-à-dire que nous, on tirouille, on ne peut pas tout non plus, quoi, et on ne veut surtout pas tout faire, quoi. C'est-à-dire qu'on est, à mon sens, on peut être des référents, on peut être impliqué, on peut participer, collaborer, mais être un acteur aussi parmi d'autres pour créer peut-être des événements un petit peu nouveaux sur d'autres quartiers, etc., quoi. Sur un pop-up, on serait plus dans nos réflexions, elles se portent plus, là on va arriver à la cinquième année l'an prochain, la cinquième édition, c'est qu'est-ce qu'on fait après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on le fait évoluer en interne, c'est-à-dire est-ce qu'on rajoute un jour, est-ce qu'on rajoute des scènes, est-ce qu'on crée un camping de centre-ville pour pouvoir loger des festivaliers, donc on est quand même sur des réflexions effectivement, est-ce qu'on fait un jour le jeudi soir qui est peut-être plus sur les lieux, plus que sur l'évêché, avec des projets peut-être encore plus underground qu'underground, c'est toutes les réflexions justement où on se dit... comment on fait évoluer le festival, est-ce qu'il y a nécessité de le faire évoluer également, enfin tu vois c'est toutes ces questions là qu'on a envie de se poser, peut-être pas pour l'édition prochaine mais peut-être sur les 5 prochaines années jusqu'à l'édition 10, s'il y a une édition 10, mais on pense qu'on est plutôt parti pour continuer quand même, quoi.
Par rapport à ça aussi, il y a des marges de manœuvre aussi au niveau des créations participatives. Comment les faire évoluer et comment travailler de cette manière-là avec d'autres quartiers. Mais je rejoins Fred et Mathieu sur la question de, il faut travailler sur de l'implication des habitants et avoir aussi des partenaires fidèles là-dessus qui puissent faciliter aussi cette dynamique qui pourrait être très chouette sur la question en tout cas des créations participatives.
Alors, en 4 ans, vous avez réussi à installer un rendez-vous sur Orléans, et puis également, qui est reconnu dans la presse nationale aujourd'hui. Seulement, au départ, c'était une tournée bistrophonique. Alors, est-ce qu'elle est réellement finie, cette tournée bistrophonique, vu que aujourd'hui, en fait, les concerts dans les bars disparaissent réellement de la place d'Orléans ? Est-ce que Orléans, maintenant, c'est justement ce festival qui ça apporte un plus énorme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la bistrophonie a disparu ?
Non, le festival ne résout pas tous les problèmes d'Orléans, bien au contraire. Et donc le festival, il participe à une dynamique locale, parce que le festival, il implique des assos locales, notamment Radio Campus dans la programmation, notamment d'autres partenaires. Mais le festival, il ne doit pas se substituer à un manque d'accompagnement de la ville sur des lieux culturels, privés, etc. C'est-à-dire qu'on a des lieux qui sont privés, qui sont d'initiatives privées, comme le Blue Davis, comme hélas le Kitchen Custom. Je pense que c'est essentiel pour une ville comme Orléans de disposer de lieux comme ça, pour la diversité des projets, la diversité de la programmation, et puis qui est... accès dans un centre-ville à plein lieu où en fait on va pas forcément dans une salle de concert les premières fois qu'on va voir des concerts. Parfois on n'a pas envie d'y aller, on a envie d'avoir des bars, des choses comme ça. Donc le festival, il participe à donner une curiosité, à donner les moyens à un public d'accéder à des groupes, voilà, à un temps donné. Mais le festival, il dure pas toute l'année, donc il y a vraiment une dynamique à avoir sur la ville d'Orléans là-dessus, et j'espère que la bistrophonie n'est pas terminée à Orléans.
Bah, moi, je rejoins un petit peu ce que dit Mathieu. Le souci qui se pose, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire que vous avez des grandes institutions comme peut l'être l'Astrolabe, c'est-à-dire qu'ils sont, je dirais, quasi intouchables, on va dire, parce que voilà, c'est un label, c'est la scène musique actuelle, etc. Et puis, ce qui interroge, c'est justement cette logique de visibilité sur des cultures ou des musiques alternatives ou des projets peut-être un peu plus alternatifs. Où pour le coup, effectivement, on se rend compte que ben, à Orléans, c'est compliqué de faire vivre ces cultures alternatives. Pas que musicales, hein, d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est-à-dire que dès lors que, ben, que ce soit des structures privées ou des entrepreneurs qui montent des bars et qui sont plutôt dans des esthétiques complexes, etc., bon, on va vite se retrouver avec, ben, effectivement, des riverains qui vont se plaindre parce que ça fait un peu de bruit, des commissions de sécurité qui vont émettre des avis défavorables sur tel ou tel artiste, enfin tel ou tel lieu, etc. Alors, il y a des choses qui sont, voilà, c'est-à-dire qu'on vous dit, bon, Dieu, vous pouvez pas y faire de concert parce que c'est dangereux, ben voilà, c'est, la règle, elle est là, la loi, elle est là, et puis vous la... Donc c'est-à-dire que maintenant, comment on répond à ces problématiques-là, et comment, pour le coup, on essaye peut-être d'engager plus une réflexion pour créer un lieu, justement, qui serait en capacité d'accueillir ces formats un petit peu alternatifs. Il y a des villes où ça existe, hein, je pense à Nantes, je pense à Dijon, je pense à d'autres lieux comme ça, enfin d'autres villes comme ça où cohabitent à la fois des scènes de musique actuelle, mais aussi des lieux comme ça qui sont autogérés par des associations, etc. Peut-être qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'interroger effectivement ces logiques de politique culturelle pour donner peut-être une place à ces formats un petit peu différents qui sont essentiels, je dirais, à la vie culturelle et à la diversité culturelle d'une